Manu. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Mathilde Wagman rencontre Jean-François Stévenin. Ce soir, double jeu.
Bonsoir Jean-François Stévenin.
Bonsoir Mathilde.
Entre votre premier film Passe-Montagne, qui est sorti en 1978, et votre deuxième, Double Messieurs, il s'est écoulé un peu moins d'une dizaine d'années, au cours desquelles vous avez poursuivi votre carrière d'acteur au cinéma. Vous avez joué à ce moment-là dans de très nombreux films. On en a évoqué certains hier. Pour ouvrir l'émission aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un film assez marquant dans votre parcours à ce moment-là. C'est le film de Luc Béraud, La tortue sur le dos, qui est sorti la même année que Passe-Montagne en 78. C'était son tout premier film à Luc Béraud. Vous qui, à ce moment-là, aviez déjà eu de belles expériences d'acteur, mais le plus souvent dans des rôles plutôt secondaires, là, vous jouez un rôle principal. Vous incarniez un écrivain en panne dans tous les domaines de sa vie dans ce film-là. C'était un rôle assez intense. Est-ce qu'il a été difficile à jouer et est-ce que c'est un moment important pour vous dans votre carrière d'acteur ?
Ah ben là, un moment très important parce qu'avec Luc, on était des premiers assistants de réalisateurs de choc.
Lui travaillait avec Eustache.
Oui, c'était connu sur un film de Monsieur Klein, Lozay, pour deux jours de tournage, et il m'avait dit d'une façon très agressive, si un jour je fais un film, toi je te prends comme acteur. Bon, moi je comprenais pas. Et entre-temps, moi j'ai fait Passe-Montagne, et la même année, j'ai interrompu le montage de Passe-Montagne pour aller faire, à Paris, La tortue sur le dos. Donc c'était très émouvant d'être là. Il y avait Bruno Nuitaine, qui était un ami de longue date, que j'avais connu sur Barocco, qui était un opérateur absolument fantastique. Et d'un seul coup, on se retrouve avec Luc Béraud. C'était très émouvant. Je me retrouve avec Bernadette Lafont, que j'avais connue sur les films de Truffaut. Mais là, me voilà acteur à part entière, là, ce coup-là. C'était pas à moitié comme sur La Nuit américaine, assistant qui joue son propre rôle. C'était vraiment un vrai truc, juste après Passe-Montagne. Donc là, je devenais vraiment acteur et aucune responsabilité de mise en scène.
Comment est-ce que vous avez travaillé ce rôle-là en particulier? Et de façon générale, comment est-ce que vous abordez les rôles que vous incarnez? Vous qui n'avez jamais appris le métier d'acteur dans une école, il n'y a pas de technique particulière. J'imagine comment vous,
vous prenez
les choses.
Je ne sais pas trop. Avec Luc, par exemple, puis j'ai gardé souvent ça après. Moi, je ne voulais pas parler aux gens avant le tournage. Donc, très souvent, je mangeais un petit couscous tout seul, 11h du matin. Puis voilà, j'allais à pied sur le décor, respiration, trac, puis on se laisse envahir un peu par le personnage, et puis après, ça vient tout seul. Ça vient tout seul parce qu'on est très dirigé. Luc, c'est quelqu'un qui dirige beaucoup, c'est-à-dire au millimètre près, à l'expression, ceci, cela. C'est pas « Oh, ça va être super, fais ce que tu veux ». C'est très directif. Donc, il faut essayer de, à la fois de prendre du plaisir et d'obéir. C'est le problème.
Elles étaient de quelle nature, ces indications à Luc Béraud?
De toutes sortes, de physique, de déplacement, bien sûr. Et puis aussi de... En même temps, il aimait être surpris par ce que j'allais faire, parce que lui avait rêvé de ça. Il aurait pu le faire, lui. C'est ce que j'avais fait sur moi sur Passe-Montagne quelques mois auparavant. Plutôt que d'expliquer à quelqu'un, comme l'avait enseigné Truffaut quand on tournait L'enfant sauvage, qui voulait pas d'intermédiaire entre un acteur et l'enfant, et moi, j'avais pas voulu d'intermédiaire entre moi et Villeray dans Passe-Montagne. Et Luc, lui, il voulait un intermédiaire. Il se sentait pas de jouer le rôle, ce que je comprends d'ailleurs, hein.
C'était un rôle très inspiré de sa propre vie.
Totalement, oui. Il écrivait ça avec son copain Claude Miller, que moi j'avais connu aussi sur Les Truffauts, et qui lui joue dans le film. Mais Luc n'a pas voulu franchir ce pas.
Au début de votre carrière, vous avez joué pour des cinéastes aînés, Truffaut, Demy, Godard, Mocky aussi, Jean-Pierre Mocky, dont on n'a pas parlé. Dans ces années-là, dans les années 80, vous avez aussi fait un passage par le théâtre, puisque en 1980, très exactement, vous faisiez partie de la distribution d'une pièce de Jacques Lassalle, mise en scène par lui, qui s'appelait « Un dimanche dans la vie d'Anna ». Vous y jouiez aux côtés de Françoise Lebrun, de Jean-Claude Dreyfus, de Maurice Garrel. C'est quelque chose qui vous tentait, le théâtre? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à
moi, ça
jouer
me
sur
tentait,
les planches?
Oui, bien sûr. Puis là, c'était une expérience catastrophique. Jacques Lassalle, qui est un dur à cuire et très angoissé, écrivait la pièce.
C'était la première fois qu'il écrivait.
Alors, il écrivait la pièce et il la mettait en scène le même jour. Alors, pendant les répétitions, même, on ne travaillait jamais. Moi, je ne travaillais jamais, donc plus la... C'était quand même un gémier, Chaillot. Plus ça approchait, déjà, il faut que tu me fasses travailler un peu, parce que moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Premier jour, ça, je me souviendrai toujours. Moi, j'étais pas habitué, donc tu es dans une loge, tu as le retour. J'entendais les autres comédiens, je les trouvais nuls. Donc, j'ai fait débrancher ça. Ensuite, je me dis, on va venir en chercher, mais il n'y a personne qui vient chercher au théâtre. Donc, si tu loupes le truc, mais tu n'arrives pas sur scène, l'ABC du théâtre, moi, je ne connaissais pas du tout. Tu es sur un tournage, tu es ici, on vient te chercher en disant, ça va être à vous. Bon, donc, je descends un peu à la bourre. Et là, au moment d'aller sur scène, j'entends des bruits. C'était 3 minutes avant que je rentre sur scène. J'entends des bruits. Et je vois le pompier, le souffleur, le pompier qui était là, qui me fait signe que ça se passait sous la scène. Je descends sous la scène. Il y avait Jacques qui était en train de pleurer. C'était une catastrophe. Je lui dis, là, écoute, si tu restes là, moi, je joue pas. Après, tu rentres en scène, t'imagines.
Dans les années 90, il y a toute une nouvelle génération de réalisateurs qui émergent à ce moment-là et qui a fait appel à vous. Ouais. Parmi eux, on peut citer Patricia Mazui, Éric Rochant, Laetitia Masson, Jean-François Richet ou Christophe Gans également. On peut imaginer que ces cinéastes-là, ils vous connaissaient bien sûr comme acteur, mais peut-être aussi qu'ils avaient vu vos films et que c'est autant parce qu'ils vous aimaient comme acteur que comme cinéaste.
C'est une impression que vous avez. J'ai l'impression les deux, oui. Mazoui avait fait comme Luc Béraud, quand elle était assistante monteuse sur le film de Demi. Assistante monteuse, elle m'avait attrapé le bras en passant, me dit, si un jour je fais un film, eh ben c'est toi que je prendrai.
Sur une chambre en ville
Sur une chambre en ville. Et 8 ans après, elle fait le film.
Alors ce film, c'est Peau de vache. Hein, c'est un film qui était sorti en 89, je crois, qui est un film magnifique et dans lequel vous incarnez... un rôle très fort. Peau de vache, c'est l'histoire de deux frères qui, par le passé, ont mis le feu à leur ferme et ont tué quelqu'un dans l'incendie par accident. L'un des deux frères, celui que vous incarnez, s'est sacrifié, a porté le chapeau pour les deux. Il a fait 10 ans de prison et il revient au début du film revoir son frère qui est désormais en famille. Il est en couple avec Sandrine Bonner. Et le couple a aussi une petite fille qui est incarnée par votre fille qui avait quelques 3 ou 4 ans, j'imagine, à l'époque. En quoi est-ce que ce moment-là, ce rôle-là, a été important pour vous? Parce que quand on regarde votre filmographie aujourd'hui, on se dit que c'est vraiment l'un de vos rôles les plus forts.
Ben oui. Ça a été important pour moi parce que j'avais embarqué... Enfin, c'est pas moi, c'est Patricia qui avait décidé. J'avais embarqué ma fille qui avait 4 ans dans cette aventure. Et j'avais très peur qu'elle devienne psychotique après le tournage, parce que c'était hyper dur pour elle.
Pourquoi ?
Parce que Patricia n'avait aucune idée de ce que c'était qu'un enfant qui tourne. En plus, elle avait pris un chef de guerre qui était magnifique, Raoul Coutard, l'opérateur de Godard, qui lui non plus a aucune idée comment on fait tourner une môme. Donc l'idée, chaque fois qu'elle tournait, la caméra n'existait pas. « Oh non, mais c'est rien, on la pose là comme ça, 2h du matin, on réveille la môme, la caméra n'existe pas. » Elle avait trouvé un truc, Salomé formidable, et qu'elle balançait le regard à droite à gauche, et un seul coup, ping, il s'arrêtait pile sur l'objectif, ce qui fait que la prise est foutue. Et quand j'étais pas là, qu'elle tournait toute seule, je disais « Mais il paraît que t'as rien fait aujourd'hui. » Alors, on avait répété, on habitait une villa avec la sœur de Sandrine Bonner, et que... Il paraît que t'as rien fait. Je dis, pourquoi? Mais il dit, parce qu'ils me font chier. Et elle se balançait toute la journée, comme une gosse qui n'est pas très normale. Il fallait les gens se relayer, les assistants, pour qu'elle sur une balançoire pendant des heures où elle ne tournait pas. Donc, moi, j'avais peur que ça soit le film de trop, et le dernier pour elle, et que ça la rende un peu marteau. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'elle est très forte, et qu'après, dès qu'elle a repris l'école, elle a sauté une classe, parce que... Vraiment, elle a tellement vécu de trucs importants pendant ce film. Mais dans le mauvais sens du terme, c'était pas du tout comme quand on tournait avec Truffaut, avec les enfants, qui étaient sacrés. Là, quelqu'un qui sait pas manipuler les mômes, c'est terrible.
Mais malgré tout, ça l'a pas empêché de jouer plus tard Salomé. Et vous, quand vous regardez ce film Peau de vache, vous êtes fier malgré tout?
Ah, j'ai mis du temps.
Le film est très beau.
Oui, le film est super beau. Très, très beau.
Parmi les films dans lesquels vous avez joué à cette période-là aussi, Jean-François Stévenin, il y a deux films de Laetitia Masson, À vendre en 98 et Love Me deux ans plus tard. Je sais que Laetitia Masson est une cinéaste qui compte pour vous, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que vous vous sentez proche d'elle et de son cinéma ?
Atome crochu, là. J'étais complètement en adéquation avec la façon dont elle tournait. C'est la première qui m'est calmée, par exemple. Elle expliquait très bien les plans. Et d'un seul coup, il me passait les mains sur le visage. Il me disait, tu fais rien. Puis je disais, mais attends, je fais rien. Mais je fais rien. Mais il me disait, mais tu te rends pas compte. Quand toi, tu fais rien, ça en fait des tonnes en cinémascope. Parce que t'es là, il y a des tas de... Elle me posait les mains sur le visage. Calme. Donc, elle dirigeait vraiment bien. Avec une façon, mais très torsionnaire pour son équipe. Parce que d'un seul coup, on pouvait faire une prise ou en faire 15. Ça, et c'est très fort, ça, comme méthode. Parce que d'un seul coup, moi, quand j'ai tourné avec des gens très doués comme Salvadori ou Rochant, je sais qu'on va faire 25 prises. Donc, c'est pas qu'on s'économise, mais on se dit, merde, on est encore parti pour en faire 25. Avec Laetitia, d'un seul coup, on change de plan. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est tout. Ah bon ? Alors, on est dans l'incertitude et on peut en faire 10, 12. Ah non, elle est formidable.
Vous avez mentionné Éric Rochant. Vous avez joué dans un film qui s'appelle Les Patriotes.
Ah, mon plus beau film de tout.
Alors, j'allais vous demander, c'était ma question suivante. Quel est votre le rôle dont vous êtes le plus fier ? C'est un film qui est effectivement très réussi, qui a été très mal aimé au moment de sa sortie. Et pourtant, quand on le revoit aujourd'hui, on se rend compte à quel point le film est réussi. D'une certaine manière, Éric Rochant aujourd'hui a sa revanche parce que sa série Le Bureau des Légendes, qui est tout à fait dans la veine des Patriotes, va dans le sens. Alors, vous disiez que c'était le film dont vous êtes le plus fier.
Ah oui, extraordinaire expérience. Je me rappelle, premier jour de tournage, il y a un truc tout simple. Je croise Yvan Attal. Il me donne du feu, j'ouvre une portière de voiture. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait après ? Il me dit, on fait ça aujourd'hui. Alors là, on ne comprend pas. Parce qu'un film, d'habitude, c'est 10 semaines. Là, c'était infini. Non-stop. Aucune contrainte.
Parce que c'est un film qui a été fait dans des conditions de production assez exceptionnelles, avec un tournage très long, notamment parce que Éric Rochant sortait d'un énorme succès, qui était Un monde sans pitié. Donc vous tourniez... un plan par jour, quelque chose comme ça ?
Non, plusieurs, mais enfin avec un soin dont je n'avais pas l'habitude du tout. C'est-à-dire, on se baladait dans la rue en répétition, puis d'un seul coup je m'aperçois que les gens qu'on croisait par hasard, c'était des figurants qu'il avait dirigés complètement. Alors là, lui, à un niveau de perfection, et là il était habité sur ce film, vraiment. Je crois qu'il avait « Regarde jamais le combo ». Mais à 150 mètres, il sait exactement ce que tu fais. Après, je l'ai connu dans les trucs plus difficiles. Le film qu'on avait fait avec Samuel Le Bihan aussi, qui était compliqué parce que il utilise des très longues focales. Et l'autre, c'est vraiment des films pour la fumiste, là. C'est-à-dire l'école de cinéma. Parce qu'il dit, la personne s'y retrouve, la script est complètement perdue. Moi, je fais... Dans tel décor, il y a deux scènes. On va tourner les deux en même temps parce que là, je casse le mur. Là, j'enlève le mur. Et tout, au lieu d'un gros plan, Mathilde, comme je vous vois en ce moment, on peut dire, tiens, comme ça, comme ça. Et bien, Rochant, lui, se mettrait dans la cour aux 250 mm et vous seriez cadré pareil. Par contre, la perception n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que d'un seul coup... Le fond existe vraiment, le fond devient flou, comme dans les films américains, les grands westerns, tout ça en scope, c'est une technique extraordinaire. Et l'autre, un dictateur complet. C'est-à-dire, on m'a dit, les Patriotes, je n'ai rien fait dans les Patriotes. J'ai obéi à Eric. C'est-à-dire, le moindre... tu te caresses le nez comme ça, c'est Eric t'a dit, non, qu'est-ce que tu me fais là qu'est-ce... Donc, à un moment, ah oui... Si, les cheveux, c'est pas mal. Tu te mets la main comme ça. Tu regardes à droite, ça lance le travelling. Tu te récupères à gauche. Alors là, il faut jouer la partition. Alors tu te sens vraiment pas capable. Donc j'obéissais à Eric complètement. Donc on me dit, oui, vous étiez formidable. Je dis, mais ça fait... Moi, merci Eric, sur toute la ligne. 98%. Moi, j'ai fait qu'essayer d'obéir.
Et c'est dans ces moments-là, en tant qu'acteur, que vous êtes heureux, quand vous sentez que metteur en scène a une direction très précise et que vous devez obéir, comme vous dites.
Heureux, malheureux, parce que d'un seul coup, on change de plan, parce que ça lui va, mais il ne dit pas, bon, alors on passe à autre chose. Et c'était pas mal. Donc on a l'impression qu'ayant loupé ce plan-là, on va en faire un autre. Scène formidable, on était sur le stade à Bagatelle où il y a un tag de foot, enfin très compliqué, avec Hayden. C'est les noms du film qui reviennent à chaque fois. C'était avec Lecoq.
Bernard Lecoq, ouais, qui joue le personnage qui vous piège dans le film.
Il se met à pleuvoir. On fait 24 prises sous la pluie avec un travelling contrarié. Moi, je fourrage dans la bagnole, l'autre, il descend, je monte à côté de lui, il a son petit sourire de faux cul. Et je suis là, 24 prises, tout l'après-midi, de midi à 7 heures du soir, sans limite. Donc là, on n'est pas content. On est content le soir que ça soit fini. Mais on se dit, j'ai encore fait louper une journée. Et après, quand le film, alors là, j'ai jamais compris, on était à Cannes, en grande projection avec tout le public, on a eu une standing ovation totale. Ça a duré 10 minutes. On sort et je me rappellerai toujours le lendemain. On fait une fête énorme le lendemain. Tout le monde fait la gueule. Pourquoi ? Ben les critiques avaient vu le film la veille, et avaient fait les papiers la veille, et il y avait un article dans Libé, un quart de page, en disant hier soir au festival, les Mossad patriotes, un jeu de mots entre le Mossad, les services secrets, et le temps Mossad. Alors tu dis, mais le gars, mais c'est pas possible, ils n'ont pas vu le film, quoi. Et le film, pareil, passe à la casserole. Mais ça reviendra un jour.
Entre votre premier film, Passe-Montagne, et le suivant, Double Messieurs, je l'ai dit pour ouvrir cette émission, il s'est écoulé presque 10 ans. Pourquoi est-ce que ça a été si long pour vous de refaire un film après Passe-Montagne, dont vous nous disiez hier que pourtant il avait été bien accueilli, que ça s'était bien passé ?
Ben, parce que moi, il faut que... Je connais que les plateaux de cinéma et je me refuse à avoir de l'imagination. Donc il faut que j'ai l'impression que les histoires qui arrivent dans le film, je les ai vécues. Donc ça prend énormément de temps, parce qu'il faut faire croire qu'on a vécu des trucs qu'on n'a pas vécu, mais dont on a rêvé. Donc dans Passe-Montagne, c'était moi quand j'étais gosse, il y avait tous mes potes qui roulaient dans des voitures volées, qui tiraient avec des calibres énormes, et qui volaient de l'essence. Et moi je rêvais de tout ça, je rêvais. Et dans Double Messieurs, pareil, il a fallu avoir tout un mélange, on ne sait plus où est l'imagination, la vie et tout ça. Donc ça prend... c'est une alchimie bizarre, quoi. Parce que chaque fois que j'ai essayé d'adapter un truc... J'ai jamais essayé, quoi, d'adapter un film.
Mais l'histoire de Double Messieurs, je vais essayer de la résumer rapidement. Comme dans Passe-Montagne, d'ailleurs, le film part de la rencontre entre deux personnages. Il y a d'une part Léo, qui est incarné par Yves Afonso, qui est un personnage un peu étrange, fan de Johnny, qui vit avec sa mère, voilà. Et puis de l'autre, un personnage que vous incarnez, un homme bourgeois, bien sous tout rapport, avec femme, enfant, même un petit toupet au début du film. Ces deux-là se sont connus dans une colonie de vacances dans leur enfance, où ils s'amusent à bizuter un troisième, un certain Kunch, il l'appelle le Kunch, qu'on ne verra jamais dans le film d'ailleurs. Et 25 ans plus tard, il se retrouve par hasard et il décide d'aller surprendre cet ami d'enfance en lui rendant visite dans sa maison près de Grenoble. Sauf qu'au lieu de tomber sur lui, ils vont tomber sur sa femme, qui est jouée par Carole Bouquet. Vous disiez que vous aviez besoin de sentir que des choses se passent dans la vie pour trouver la matière de vos histoires. Qu'est-ce que c'était alors la source dans votre vie de cette étrange histoire ?
C'est par bout, c'est-à-dire que bon, j'étais... moi aussi, j'avais un souffre-douleur pas mal quand j'étais au lycée. Et puis après, quand j'étais en HEC, et finalement, c'est des relations très bizarres, parce que le souffre-douleur en redemande, parce qu'il veut faire partie de la bande. La bande, c'est une autre personne, hein, c'est pas 50 personnes. On dit, ah ben, pour ça, il faut que tu mérites. Hein. Donc, il passe un tas d'épreuves pour mériter de faire partie de la bande. On continue à le faire chier, bon, ce temps-là, c'est pas très sympa. Mais finalement, tout ça est assez joyeux, de toutes parts. Donc, j'avais connu ça. Et puis, aussi des choses étranges, j'avais le fait qu'on ne sait jamais trop où on en est, quoi. Oh, c'est épars complètement dans ma tête, parce que j'invente à moitié sur les repérages. aussi, c'est-à-dire que c'est en repérant des choses qui ne sont pas encore écrites que je me dis, ah, ça serait bien, la falaise, il y a un tunnel là, s'il y avait ci, si l'autre disparaît, alors hop, après, 2 mois après, ben tiens, on fait une scène avec un tunnel, tout ça c'est assez épuisant, et c'est une alchimie qui a l'air complètement jobard. Hein. Donc après, pour écrire, à chaque fois, il me faut un sparring partner, on part 8 jours, alors je l'ai fait avec Bruno Nuiten, je l'ai fait avec Jackie Berroyer, mais on n'a jamais rien écrit ensemble. Donc c'est moi qui raconte. Les autres disent oui, mais alors. Puis après, j'avais essayé ça avec Jackie Berroyer qui partait sur une autre histoire complètement. Je lui dis oh là là, mais attends, non. Donc finalement, après, je suis obligé d'écrire tout seul, ce qui est encore une autre étape. Mais on a fait ces trucs-là à plusieurs. Trouver ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je me fais accoucher par d'autres personnes.
Comme dans Passe-Montagne, vous filmez des personnages à la marge, des gens qui sont légèrement en décalage, légèrement en dehors de la société telle qu'elle va, on pourrait dire.
Ah, pas vraiment, parce que dans Double Monsieur, moi, je fais vraiment un gars qui sort d'HEC, oui. Et qui travaille dans une boîte. T'as mon le
Absolument,
copain que je retrouve.
Absolument, je pensais plutôt au personnage qu'incarne Yves Afonso.
Oui, ah bah lui...
Ou Jean-Paul Bonnaire.
Voilà, Yves Afonso, il vit avec Jean-Paul Bonnaire. Qu'on appelle l'ouragan dans le film, il vit une espèce de relation, on ne sait pas trop quoi. Il est concierge avec sa vieille mère qui habite au 5e. Donc l'autre, il est resté enfant. Lui, il n'a pas bougé. Il est resté adolescent, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il rebranche si fort. Donc moi, c'est un film sur la quarantaine, quoi. Sur le Passe-Montagne, c'était la trentaine. Là, c'est la quarantaine. Disons, bon ben... Hop, et une parenthèse dans la vie. Moi, je sors de mon petit univers très sécurisé. Et d'un seul coup, c'est moi qui crée. C'est Afonso qui crée les conditions. Mais je prends le train en marche. Et d'un seul coup, on se retrouve au bord du fait divers. Ça aurait pu très mal tourner, l'histoire. Alors ça, c'est aussi un truc que j'adore, hein, d'être au bord du fait divers, de frôler comme ça. Alors que les personnages, voilà, ils font rien de mal. Ah, quand même, limite. Kidnapping, quoi, kidnapping, non, non, mais...
Oui, parce qu'il se retrouve à kidnapper le personnage de Carole, ah, oui. Presque sans qu'il l'ait préparé. Enfin, oui. C'est un moment très étrange où on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On se rend compte qu'il la kidnappe, mais ça arrivait tout
quand
d'un
même,
coup.
Bien sûr. Ouais. Et ça pourrait être très mal viré. D'ailleurs, Carole, quand elle se retrouve en otage, le personnage qu'elle fait... dans une maison témoin construite par son immense mari richissime, elle dit, bon, comme je sais comment ça va finir, je voudrais savoir comment ça va se passer. Et moi, j'entends ça, je dis à l'hôtel, on s'en va, vite, vite. Donc, tout ça, c'est des petites frissonneries, et après, on se demande ce qu'on a fait. Sauf qu'à la fin, elle disparaît comme si je la poussais dans le vide, quoi. Alors que c'est un accident.
Yves Afonso et Jean-Paul Bonnaire, c'est deux acteurs que vous allez retrouver dans votre film suivant, Mishka, et qui participent beaucoup de l'atmosphère du film. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Comment est-ce que vous les avez choisis?
Ben, Yves Afonso, depuis très très longtemps, je le connaissais. Et puis, je l'avais pratiqué... mon copain Rosier l'avait pratiqué sur Main Océan.
Jacques Rosier.
Et c'est un gars absolument extraordinaire, mais par contre, pas tellement de... Pas d'aide au niveau du tournage. Alors, autant Villeray, j'avais l'impression qu'il m'aimait pas. C'est un peu la même démarche, d'ailleurs. Lui aussi, j'avais l'impression qu'il m'aidait pas du tout. Parce qu'il voulait pas absolument qu'on répète. Lui, il fallait le soir, 8 heures, l'entrecôte, les pompes, etc. Je lui avais dit, pour le film, laisse aller, mets-toi à boire du vin rouge, arrête de... Eh non, écoutez pas. Et c'était compliqué pour moi, parce que dans les deux cas, avec Villeray, c'était pareil, j'avais cette espèce de chorégraphie de la caméra qui bouge, les paysages qui bougent autour avec les acteurs, que c'est hyper pointu. Alors, je l'obsédais avec ça. Mais en dehors de ça, il était formidable. Il a inventé des trucs. Alors, il avait un gros cahier. Il marquait tout ce qu'il avait inventé. Je lui dis, on va pas tourner ça. C'est tout. Mais il a pioché là-dedans. Et je ne sais plus, moi, ce que j'ai écrit, vraiment. Il n'y avait pas de scénario sur le tournage. Et l'autre, il inventait des trucs d'une drôlerie totale, totale. Un grand sens du rythme formidable, absolument formidable.
Et Jean-Paul Bonnaire, qui est donc l'ouragan dans le film, qui a une présence très étonnante, personnage très étrange. Vous l'avez connu comment?
Alors lui, je l'ai connu pareil, il y a très longtemps. Je l'ai connu au Sherwood avec Jacques Villeray, le Sherwood étant ce bar de nuit où on était tous avec Nils Arestrup, Balmer et Jean-Paul Bonnaire. Lui, il faisait des petits sketchs. Il travaillait à la SNCF, mais il n'y allait jamais. Et alors lui, on savait jamais si c'était de l'or ou du cochon, parce qu'il est très gentil, lui, très, très, un cœur comme ça. maladresse totale. C'est-à-dire, d'un seul coup, au milieu d'une scène, il allait monter sur une chaise. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu... Excuse-moi. Ah non, j'ai pas fait exprès. La prochaine fois, je ne ferai plus. Et en même temps, alors là, surprenant, parce que, donc, comme il n'y avait pas de scénario, j'avais vu un mot à l'avance, j'avais montré tous les textes que j'avais écrits, sans lui laisser. Comme ça. Laisser 2 jours, je crois. Et après, plus de textes. Après, au tournage, plus rien. Et au tournage, l'autre sortait les choses à la virgule près. Et on croit qu'il improvise. Alors ça, il a fait ça brillantissime dans Mishka. Et dans Double Messieurs, tout est écrit. Tout est écrit. Il ne va jamais se souvenir de... Et hop, alors là, fidélité totale, à la virgule près.
Le film se termine sur une série de photos qui montrent en quelque sorte l'envers du décor. Il y a notamment une photo assez impressionnante où on voit des rails de travelling qui plongent dans le vide vers la montagne. C'est un procédé de mettre ces photos comme ça, enfin en générique, que vous utiliserez aussi dans Mishka.
Ouais.
Ça a l'air comme ça d'être un détail, mais n'empêche que ça produit un effet assez fort sur le spectateur. C'est comme si vous vouliez ancrer la réalité du tournage dans la matière même du film, en quelque sorte. L'aventure du tournage au sens fort, avec ses imprévus et ses doutes, est-ce que c'est quelque chose qui fait profondément partie du film pour vous ?
Absolument. D'abord, un long générique, ça permet de sortir du film tout doucement. Et ensuite, pour moi, c'est une façon de remercier l'équipe, sans laquelle j'aurais rien fait. C'est-à-dire, il y a absolument tout dans le générique, mais plutôt que ce soit un déroulant qui passe vite fait, comme à la télé, où on n'a même pas le temps de regarder, c'est vraiment, je trouve ça d'une grossièreté totale. Heureusement, les grands films de genre... les grands films, à ce coup, on voit tout le temps les grands films, on voit tout le temps, on a le temps de se dire qui c'est qui faisait les effets spéciaux, qui c'est qui était au travelling, qui c'est le maquillage. Donc moi, je trouve un truc pour que ça dure, et remercier l'équipe. Et c'est pour ça qu'à la fin, avant ce travelling qui va plonger dans le vide, le truc a été tourné au moment du tournage, donc c'est pas fait après. On voit l'excellent chef Machinot, qui était l'ancien chef Machinot aussi de Bruno Nuiten, qui plante une perche dans la neige, il me fait moins 40, et l'autre, il est là. Il pousse le travelling, on voit la caméra qui avance et qui plonge dans le vide, avec lui au millimètre près. C'est une façon de remercier de cet effort énorme qu'une équipe fait sur un tournage.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathilde Wagman avec Jean-François Stévenin. À voix nue, réalisation Anne Pérez, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.